C'est quoi le plan, boss ?
Me dis pas que t'es inquiet.
Salut !
Salut !
C'est Soundtrack.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma.
C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance.
How even love can become a lethal weapon when you lose control and you scare yourself sometimes.
Bonjour à tous.
Attends, c'est bizarre, ça sonnait mieux dans ma tête, dit. On va la refaire.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Ah, c'est mieux.
C'est mieux comme ça.
Bonsoir les gens, bonsoir tout le monde. Bonsoir Yves.
Ça va mon Jérôme ?
Bah pas mal.
Ouais.
Bonjour. Ah, c'est le premier blanc.
Ouais, c'est le premier blanc. je regarde technique, il y a Teddy, je mélange, je bafouille, je crois que je vais finir l'émission. Salut, ouais. C'était Soundtrack.
Bonne soirée et bienvenue sur Unitorink.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ici la voix. Ça va ?
Jérôme,
oui.
Voici ton gage.
Oui.
Tu devras essayer de comprendre Yves.
Ah oui, non mais ça...
Alors, lui souhaite beaucoup de courage et d'abnégation.
Alors que le disque ne se finissait toujours pas, on va peut-être commencer l'émission.
Et donc...
Ouais. T'as encore perdu le fil, toi.
Déjà, Teddy, je te remercie d'être venu. Parce
oui,
que
c'est gentil.
T'as vu déjà, je m'embrouille avec rien que la voix. Alors ouais. T'imagines le mois dernier avec les boutons de la console.
Ah oui, c'est vrai, j'étais pas là.
Oui, c'est con parce qu'il a été livré avec des mains, en fait.
J'ai oublié,
c'est
vrai.
Et c'est pas quoi en faire.
Moi, j'ai des gros doigts et quand...
Non.
Et j'appuie sur les mauvais boutons et il y a Monsieur Jérôme qui parle dans son micro, mais personne ne l'écoute.
Oui, alors ça, j'ai l'habitude aussi.
Ouais.
Bon.
Oui. Et retour également de la vidéo. Coucou à ceux qui nous regardent sur Facebook.
Oui.
Parce que le mois dernier, on ne l'avait pas mise. Parce que.
Ouais, Yves s'était pas rasé.
Déjà que l'audio, j'ai mis mal.
Non.
Alors la vidéo.
Oui.
Et n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent justement sur Facebook, de nous laisser quelques petits messages et interjections sur
interjections.
Vos avis de musique, les choix de films, vos souvenirs associés par rapport à la thématique de ce soir.
Voilà.
Nous faisons déjà des salutations en série.
Oui, en série. Allons-y, on étale de la confiture sur une tartine beaucoup trop courte. Allons-y.
Ouais.
Allons-y, trop longue, je dirais. Alors, ce ne serait pas un scénario scripté, Yves, par toi
Et côté esprit, moi, je l'ai justement perdu.
Attends, c'est
depuis bien longtemps,
bon,
et encore, on n'est jamais eu. Hein
ouais, c'est con pour celui qui l'a trouvé.
Voilà,
donc on écoute quand même.
Teddy, si tu trouves, tu mets directement à la poubelle, pas en recyclage.
C'est ça. Alors, on s'écoute un petit Die Hard 3, Let Them Cook.
Parce que, justement, si moi, j'ai pas beaucoup d'esprit, il y en a d'autres comme Martin Riggs ou le lieutenant McLean qui en ont beaucoup, voire de trop, et sont un peu frappadingues. Cela en plusieurs épisodes pour bien nous l'exploser ou l'exposer.
Oui, car oui, voilà la thématique de ces émissions. Si jamais vous ne l'aviez pas compris dans ce foutrac amas de paroles totalement formidables, hein,
parce
qu'on va peut-être se vendre quand même un peu, hein. On va parler des sagas et des franchises de films et donc des musiques aussi. Et donc, les films en plusieurs épisodes, a-t-il écrit le Breton ?
Voilà. Comment ça ?
Et il y en a beaucoup des Bretons aussi, hein. Certains comme L'âme fatale et Die Hard ont été abordés. Et ce qui sait, oh diantre. C'est bien, ça fait l'occasion de le placer celui-là.
Ouais.
Dans des émissions précédentes, voilà. Mais nous y reviendrons pleinement dans une émission adéquate et à bouloir pour Pour chaque ultérieurement.
Oui.
Alors mon cher Yves, les scripts, le prochain coup avec les deux mains et un dictionnaire.
Et
merci.
Et t'as qu'à les lire avant. Il faut bien pour ça.
Ah les vieux couples.
Rend hommage aux compositeurs, réalisateurs, acteurs, comme au final un peu tous les films que nous abordons aujourd'hui.
Maître Capello, si tu nous écoutes.
Ouais, il se retourne dans sa tombe, oh, le soulie.
Oui. Et sans forcément avoir joué ensemble, Mel Gibson et Bruce Willis ont participé à la franchise The Expendables, lancée par...
Sylvester Stallone.
Bien, regroupons les acteurs ayant été héros de films d'action, guerre, policier, blabla. Et Stallone est bien placé à ce niveau. Là, eh ben, rien qu'avec les sagas Rambo, Rocky et...
Creed.
Bien. Sur quasiment un demi-siècle de cinéma, ouais. Bah, entre joyaux et gros cailloux dans la mare.
Ouais.
Mais il a fait des bouses aussi. Oui, voilà.
On va aborder. Ça va quasiment faire une spéciale Stallone, mais ce n'est pas une spéciale Stallone.
Oui.
Suivez bien toute l'émission, vous allez comprendre.
Alors, merci d'avoir tout bien divulgaché. Voilà.
Oui, bah,
ça fait plaisir d'écrire.
Quand on parle de Rambo, Rocky, Creed, on dit Stallone et Stallone. Ah, on a dit Expendables. Stallone. Merci, je reviendrai. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
Voilà. Bon, est-ce qu'on peut développer le cas Sylvester, si tu permets.
Déjà, donc voilà. Sylvester Stallone étudie l'art dramatique, si, ne vous inquiétez pas, à Miami, et de retour à New York, il apparaît dans plusieurs pièces off-Broadway. Au milieu des années 70, il commence à obtenir des seconds rôles plus importants, comme dans Capone, ou dans la série B, La course à la mort de l'an 2000, où il interprète l'antagoniste principal.
C'est durant cette période que Stallone...
Écrit
le scénario de Rocky. Rocky, une question. Non, c'est pas la bonne émission.
Non, c'est pas
non,
ça.
Non, ni de Limoges, ni de Bâle. Ouais. Non. Non, je coupe l'herbe sous le pied de Teddy avant qu'il la fasse, celle-là.
Ouais, parce que
même pas
de Madame Belpère. Alors, c'est l'histoire
de
d'un
Bouloir.
Boxeur de seconde classe qui se voit offrir la chance de sa vie le jour où le champion du monde de boxe lui propose de l'affronter sur le ring.
C'est sympa comme scénario.
Au moins, c'est un synopsis.
Ouais.
Pour une fois, c'est moi qui te l'ai piqué.
C'est pas vraiment un synopsis, hein, mais bon.
Ouais.
Après le synopsis, on peut appeler ça le scénario.
Oui.
Hein, voilà. Ou un James Cameron sur un post-it. Bon,
d'accord.
C'est autre chose. Mais voilà. L'histoire du film Rocky est inspirée d'un combat de boxe auquel il assista en tant que spectateur entre Mohamed Ali et un boxeur inconnu du public, Chuck Wepner.
Et convaincu du potentiel du rôle de Rocky Balboa, Stallone refuse de vendre son scénario s'il n'obtient pas la garantie de jouer le rôle titre.
Ouais, et les producteurs font monter très haut les enchères pour acheter le script, mais ils souhaitent une star confirmée sur l'affiche. James Caan, Robert Redford, Burt Reynolds ou Ryan O'Neill. Alors aujourd'hui, on les connaît peut-être un peu moins, mais à l'époque, Stallone, il n'existait pas comparé à ceux-là.
Oui,
donc voilà.
À l'époque, le plus connu, c'était Redford. Quand même.
Ouais, James Caan aussi jouait des gros rôles aussi, même si on l'a moins vu après, plus dans des séries.
Tous les autres étaient justement soit à l'affiche depuis les années 60 ou un peu plus récemment avec des succès imposants et ils ont des gueules aussi.
Ah bah oui,
donc,
Par contre, Robert Redford, je vois pas trop, mais
oui.
Il aurait dû faire de la gonflette un peu pépère. Mais
oui.
Bon, voilà.
Mais Burt Reynolds était déjà plus carré, plus charismatique dans le domaine-là.
Tout à fait, oui. Quant à Ryan O'Neill, il ne vient plus aux soirées.
Hein. Ouais.
Voilà, c'est fort dommage.
Bah, si je ne me trompe pas, il est mort l'année dernière.
Merci.
Et donc, c'est finalement en 76 que Stallone obtient gain de cause quand sort Rocky, un film réalisé par John Avildsen.
Le tournage est bouclé en un mois avec un budget dérisoire. Bah, ça va avec le scénar,
ouais.
Je pense.
Hein. Et à l'image de Rocky Balboa, son personnage, Sylvester Stallone, se retrouve propulsé sur le devant de la scène, le film connaissant un succès inespéré et décrochant 10 nominations aux Oscars. Quand même pour un film qui, au départ, est fait avec 3 francs 6 sous.
C'est-à-dire le gars passe de personne à troisième personnalité en termes de récompense et compagnie derrière Charlie Chaplin.
Ah ouais, oui, carrément.
Voilà, ça, c'est juste histoire. Le film remporte 3 Oscars, dont celui du meilleur film de l'année. Voilà. Et sinon, le gars derrière la musique,
William Conti, dit Bill Conti, compositeur italo-américain de musique de film. Tiens, italo-américain, ça me rappelle, c'est pas Stallone, ça aussi ?
Oui, hein, c'est son surnom.
Ouais. Il est chef d'orchestre à l'âge de 15 ans.
Oui.
Il commence à composer pour le cinéma en 73. Son premier succès fut en 76, la musique de Rocky.
Bah oui. Dont le thème Gonna Fly Now deviendra un tube mondialement connu. La saga sera ensuite déclinée en 5 suites dont Conti signera la musique à l'exception de... Rocky IV. Hein.
Mais bon. Et souvent associé au film de Stallone, il devient également le collaborateur régulier du réalisateur John Avildsen, notamment avec la saga des Karate Kid.
Oui. Artiste éclectique, Bill Conti privilégie souvent une écriture symphonique tout en retenue, avec des thèmes au piano d'une grande efficacité. Il agrémente parfois certaines de ses partitions de touches plus contemporaines, le disco pour Rocky II, la pop américaine pour Karate Kid. Ça peut de temps en temps en faire des œuvres un peu datées, mais ça a le mérite de correspondre à la bonne époque. Il faut remettre dans le contexte, c'est toujours très important.
Et il s'est également utilisé avec harmonie des instrumentations plus exotiques, telles flûte de pan sur la série des Karate Kid, justement, qui en font des partitions immédiatement identifiables. C'est ce que tu dis justement à ce niveau-là. Et en 80, il signe la partition du film de John Cazavetes, Gloria, et se voit confier le soin de moderniser la musique de la série des James Bond avec Rien que pour vos yeux en 81.
Et en 1983, il compose la musique du magnifique L'étoffe des héros. Celui-là, je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. J'avais lu le livre, c'est magnifique.
Moi, j'adore ce film, c'est un de mes préférés. Toutes catégories confondues, il y a... On en parle. Un jour, on en reviendra.
On fera des émissions.
On fera peut-être une thématique sur les astronautes, un truc comme ça, et automatiquement, ce film-là, il sera dedans.
Mais d'abord, on finit celle-là.
C'est
pas con. Hein.
Et derrière, ça vous dit pas un petit quelque chose ? Teddy, tu veux pas nous la remonter un petit peu, celle-là ?
Ouais.
Alban, ai-je besoin de vous présenter ce titre du groupe Survivor qui s'appelle oui. Eye of the Tiger, figurant sur la bande originale du film Rocky 3 avec Mr. T comme, comme combattant en face de Rocky Balboa. Mais il y a une petite histoire derrière ce titre.
Bah oui.
Bah, ça commence lors d'un dîner entre l'acteur Sylvester Stallone et Tony Scotti, le patron de Scotti Bros, le label de Survivor. Au cours du repas, Tony demande à son ami quand doit sortir son nouveau film et si la musique est terminée. Stallone lui explique qu'il s'est vu refuser les droits d'utilisation de la chanson « Another One Bites the Dust » de Queen qu'il avait initialement choisi.
Des petits jeunes qui débutent.
Ouais. Mm. Et bon, Sly connaissait juste le titre « Poor Man's Son ». Le premier succès du groupe Survivor dans le top 40, extrait de l'album Premonition, sorti en 81. Et c'est vraiment Tony qui a joué Cupidon entre Stallone et le groupe. Ainsi, Jim Peterik et Frankie Sullivan proposent une première chanson, donc deux membres du groupe Survivor, une ballade intitulée « Ever Since the World Began » que l'acteur rejette, car elle ne correspond pas à ce qu'il souhaite.
Ouais, Sly a dit « J'ai besoin d'un pouls », se souvient Sullivan. Il a besoin de quelque chose avec une impulsion, une ambiance, quelque chose qui percute, qui fasse coup, qui fasse battement cardiaque. Alors qu'on est en train d'écouter la concurrence, mon chéri.
C'est ça. Voilà. Merci Teddy. C'est vrai que la basse apporte quelque chose, ça pourrait coller dans l'ambiance d'un combat de boxe. Mais au final, le titre de Survivor est quand même plus percutant.
Oui, d'autant plus que ce n'est pas ce qui a été choisi, donc ce n'est pas le bon titre.
Mais
ça aurait pu.
Ouais.
Mais ça aurait pu.
Mais justement, sur, ça pulse un poil moins au final pour un combat de boxe.
Donc, ne revenons au repas. Les deux compositeurs demandent alors à Stallone de voir le film pour trouver l'inspiration. Tout ça pour gratter le film avant les copains.
Ouais.
C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, vraiment. Mmh. Stallone n'était pas chaud, mais il a quand même demandé. Il a quand même. Ouais. Il voulait bien envoyer les 10 premières minutes du film. Et le chanteur dit qu'il était tellement bouleversé qu'il a demandé à avoir la suite.
Mmh.
Gros gratteur.
Ouais,
gros
ouais.
gratteur parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Puisque Yves. La chanson s'est écrite en combien de temps ?
Allez, 10-15 minutes.
Oui, wow,
parce que justement, bah, ça les a tellement inspirés ces 10 premières minutes du film que bah, c'est venu tout seul. Ils ont bien travaillé, ça coulait de source.
Il n'y
a, que le refrain qui a mis un peu de temps à venir, parce qu'il faut trouver les bons mots.
Oui, puis il fallait voir la fin du film.
Bon. Et il fallait voir la fin du film.
Bah, oui, oui. Les deux musiciens ont pratiquement fini la chanson en un jour. Quand Stallone l'a entendu, il a beaucoup aimé la chanson et ce riff percutant, parfait pour accompagner les coups de poing.
Ouais.
Il suggère juste au groupe que la batterie soit encore plus forte et d'ajouter un couplet. Le groupe s'exécute et enregistre rapidement une démo avec Frankie Sullivan derrière la console. Lui se souvient...
Nous avons enregistré la démo de Eye of the Tiger le 1er février 82 et c'est la version utilisée dans le film. Sly l'a tellement aimé qu'il n'a pas attendu la version qui figure sur l'album. Il ajoute ensuite « Beaucoup de gens ne l'ont peut-être jamais remarqué. » Et ça, c'est justement maintenant, je vais aller y prêter l'oreille plus précisément. Mais la version de la chanson dans Rocky 3 et le hit radio sont deux enregistrements différents.
Oui,
le film utilise donc la démo qui bottait le cul. Et comme il pense, c'est ce que Sly a aimé et ce qui est sorti en single et que vous entendez à la radio. C'est la version album. On s'en lasse pas.
Non, clairement. Stallone, lui, puisqu'il en est question, retrouvera le personnage de Rocky Balboa à 7 reprises. En 79, en 82, en 85, 90, 2006, 2015 et 2018. Stallone en a écrit tous les scénarios et a réalisé le 2, le 3, le 4 et le sixième volet intitulé Rocky Balboa. La série des Rocky présente un parallèle entre la carrière de l'acteur et du boxeur. On quitte le petit tocard paumé de Philadelphie pour évoluer vers une superstar accaparée par son image, Rocky III, voire un fer de lance du patriotisme américain en pleine relance de la guerre froide, garde à vos repos, ouais. Rocky IV, où il affronte un boxeur de l'Union soviétique.
Ouais, un beau grand costaud.
Ouais, avec une maîtrise de chimie, mais c'est une autre histoire.
Et les épisodes successifs ne cessent d'améliorer les scores du box-office, allant jusqu'à 300 millions de dollars récoltés dans le monde pour le quatrième épisode, à l'exception du cinquième volet qui rencontre un accueil mitigé. Et à la fin des années 70, Stallone cessait la réalisation avec un autre drame sportif, La Taverne de l'Enfer, sorti en 78. Mais le film essuie de mauvaises critiques.
Oui, il aura fait d'autres choses aussi. Et pour le 35e anniversaire du film en novembre 2020, Stallone annonce un nouveau Rocky IV et dévoile des scènes inédites.
Ouais. Et en 82
en 82, on passe à autre chose.
On passe dans un autre style, mais
c'était
dans un
guerre,
autre
colonel.
Personnage tout à fait emblématique de la carrière de Stallone.
Un truc qui le rend beau.
Ouais. En 82, donc, Stallone interprète Rambo.
Bah oui.
L'autre rôle qui marquera sa carrière, donc John Rambo, vétéran du Vietnam, sans domicile fixe,
et qui erre de ville en ville. Pris en grippe par un shérif de province qui ne veut pas voir déambuler dans sa ville un paria, symbole d'une Amérique qui a perdu. Alors, la ville s'appelle Hope, Espérance.
Ouais,
hein. Pour les non-bilingues, c'est un bonheur. Donc voilà. Et le film pète des gueules, hein. Faut pas. Enfin voilà, il annonce la suite.
Mais au départ, c'est quand même une très très belle critique.
On ne dit pas. Je critique pas.
Sociétale et sociale.
Par contre, il y a un moment, le scénario s'emballe un peu.
Oh.
Tu sens que la démographie était un peu trop et qu'on a décidé de calmer le contrôle des naissances à la base.
On lui a quand même un peu cassé les roustons à un moment.
Oui, bah donc il rend l'appareil.
C'est bonjour messieurs, je vous présente mes hommages.
Voilà, donc on va faire le petit synopsis maintenant qu'on a tout bien touché sur le scénario.
Ouais.
Johnny Rambo, ouais, il s'appelle Johnny. Héros de la guerre du Vietnam n'a jamais su se réadapter à la vie civile, tu m'étonnes, avec la coupe de cheveux. Traqué par la police d'une bourgade tétoïve, t'as pas le droit de te moquer. Nommé Hope, comme je le disais, il reprend les armes et le film regarde alors avec courage le problème des anciens combattants en Amérique. Ouais, America Great Again, Coco.
Mais moi j'avoue que je suis de la génération normalement d'avoir été voir les Rambo en vrai quand ils sont sortis, mais j'étais trop jeune au moment du premier, deuxième, au moment où tu arrives à l'âge où tu peux aller toi-même au cinéma, on en était déjà au troisième qui devenait une caricature et le truc trop patriotique. Avec le sketch,
Rambo
on va dire, de
les Russes. Non, mais c'est. Oui,
on
voilà.
va dire, et ça ressemble au sketch de Dupontel. Un obus dodo assommé. Bah oui, il se prenait des tonnes de trucs dans la gueule,
France,
mais il se relevait. Et c'est un peu comme James Bond. Non, le costume n'est même pas froissé. Il n'y a pas un grain de poussière.
C'est ça. Les guignols nous avaient fait Monsieur Stallone. Non, c'était comment
le colonel Sylvestre. Donc moi, je n'ai vu cet épisode que tardivement, après quelques années. Quand, en m'intéressant un peu plus au cinéma, j'ai lu le synopsis du premier et la critique et je me suis dit, mais ça correspond pas du tout ça, le premier.
Souvent comme les premiers.
Et le premier, justement, c'est une chronique, justement, de l'Amérique en crise.
Oui.
Par rapport, justement, à comment retrouver des militaires qui ne sont pas des héros, des vétérans. Parce que ben, c'est un peu la honte quand même, après 20 ans de guerre au Vietnam, ils se sont fait botter le cul.
Si, oui.
Et ben, America Great Again, ça fait un peu mal à ce moment-là.
On
donc,
est d'accord, ouais.
C'est une très très belle chronique de la société américaine de cette fin des années 70. Et à voir, mais vraiment à voir.
Voilà, et Stallone reprendra ce rôle à 4 autres reprises, 85, 88, 2008 et 2019. Le personnage de Rambo, que Stallone considère comme son côté sombre, Rocky étant son côté clair, reprend quelques éléments de la vie de l'acteur, comme le fait également la saga Rocky.
Ouais.
Rambo, surtout avec le deuxième épisode de la trilogie, le premier étant le plus ambigu, oui, redonne de la fierté, entre guillemets, aux Américains qui pensent encore les plaies douloureuses du bourbier vietnamien. Non seulement Stallone rompt avec un cinéma américain très virulent à l'écart de l'attitude des troupes de l'oncle Sam, pendant la guerre du Vietnam, on pensait à Apocalypse Now, Voyage au bout de l'enfer, Platoon, Full Metal Jacket, bon, je suis pas sûr. Là, c'est très binaire, on est d'accord.
Oui.
Il y a d'autres manières de voir la chose, hein. On peut parler sans pour autant critiquer.
Et justement, la trame du film Rambo 2, la mission où le héros repère et libère des soldats américains encore détenus dans les geôles vietnamiennes, véhicule l'idée selon laquelle ce nouveau héros américain venge à lui seul un pays déshonoré et gagne une guerre perdue par les bureaucrates.
Oui, tout seul.
Ouais.
Ouais, bon.
C'est, on va dire, c'est ça la magie du cinéma également. Faut savoir, on va dire, poser le cerveau en se disant, on va péter les gueules et on va se venger d'une certaine manière.
Oui.
Je crois qu'au Vietnam, Rambo est pas très bien perçu.
Ah, tu crois?
Ouais.
Non, sans déconner.
Et c'est pour cela que Rambo et par la même occasion Stallone deviennent l'image de l'Amérique fière et patriotique des années 80.
Voilà.
Ouais.
Et ça provoque justement, c'est ce qu'on disait, de nombreuses réactions. Alors, de rejet, j'irai peut-être pas jusque-là, mais de moquerie.
Oui.
Ces réactions sont très vives en France. Oui, bon. Ouais. Provenant notamment des nuls. Hein.
On a le
c'est voilà, ça, les guignols de la faux.
J'ai pété, il la veut, ta putain de guerre.
Voilà. Dans laquelle la marionnette de Stallone est choisie comme avatar pour représenter les pires travers de l'Amérique au travers du personnage de Monsieur Sylvestre.
Mais au moins, on s'en rappelle.
Et c'était rigolo de voir les deux.
Oui.
Parce qu'il y a eu un guignol où Sly était en face, mais il y a eu beaucoup d'émissions de nulle part ailleurs, où Johnny a rencontré sa marionnette aussi.
Ouais.
C'était pas piqué des hannetons.
Bon, et autrement, on a oublié de parler un peu de la musique qui passe en fond.
Allons
ça,
bon.
Ça vient donc de Rambo First Blood, le premier, également du deuxième, la mission.
Et c'est pas grave, c'est toujours le même.
Et c'est qui le petit monsieur qui compose?
C'est un Jerry.
Ouais.
Mais c'est pas celui de Parker Lewis, c'est, non, c'est Jerry Goldsmith.
Tom?
Non. Non plus.
Ouais.
Non. Non, je l'attendais pas, celle-là.
Non, celle-là. Tom and Jerry, non, ça marche pas.
Non.
Jerry Goldsmith, tu nous en parles un peu?
Oui, c'est un petit compositeur américain, lui aussi, né en 1929, essentiellement connu pour ses musiques de films, donc, qui a également composé, on va dire...
quelques œuvres de concert.
Oui. Et parmi ses compositions les plus célèbres figurent celles des films La planète des singes, Papillon, Chinatown, Alien, Le huitième passager, Rambo ou encore Les Gremlins. Il a obtenu de nombreuses récompenses, dont un Oscar du la meilleure musique pour La Malédiction.
Pas un
plusieurs
petit
ballets...
compositeur.
Non, clairement. Plusieurs ballets ont d'ailleurs été tirés de ses musiques de films, notamment au Canada et en Australie. Donc, c'est pas eux qui font les titres.
Ouais.
Bref.
Et en 83, Stallone coproduit et coécrit également la comédie musicale Staying Alive, la suite du succès mondial, ayant révélé l'acteur John Travolta dans le film La fièvre du samedi soir. Mais ce fut quand même un certain flop critique, mais un succès commercial.
Voilà. Et Sly, essayant de changer cette image de baroudeur, de tabasseur, de péteur de tronche, s'essaie à d'autres choses, avec plus ou moins de succès. Je pense notamment à Tango et Cash, Haute Sécurité, Cobra. Bon, voilà,
ça reste dans le domaine gros bras, mais où il essaye de rentrer dans la comédie, détendu, de se prendre moins au sérieux quand il met des claques.
Oui, c'est ça. On essaie de glisser du film d'action, on essaie de faire autre chose.
Ouais.
Il s'est même fait piéger à propos de Arrête où ma mère va tirer, parce que le scénario avait été proposé à un pote à lui, un petit maigrichon, un autrichien, Arnold. Et Arnold, à qui on propose le scénario... C'est la guéguerre entre les deux. Et puis la guéguerre, on est content, ça vend du papier, des films, des entrées.
Bah ouais.
Et comme disait Stallone et Schwarzenegger à l'époque, c'était à qui aurait la plus grande gueule, le plus gros ego, le plus gros couteau, le plus gros flingue, le plus gros film et le plus gros budget.
Ouais. Donc, qui voilà. qui tue le plus de monde, qui fait sauter le plus d'avions.
Et on le voit
et
dans Shot 2 où tu as le, il y a carrément un kilomètre. Voilà, le compteur qui est magnifique, c'est énorme. Et Arnold Schwarzenegger explique qu'on lui propose l'embrouiller dans le sac et que honnêtement, il sent le nanar, il sent la peau de banane. Et plutôt que de dire non, c'est bon, j'en veux pas poliment, il fait le gars intéressé, ce qui forcément suscite la jalousie de l'autre.
Bah ouais.
Laura, il est pas content que Hardy ait du boulot et pas lui.
C'est con.
Et puis au bout d'un moment, il dit non, finalement, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Stallone prend et il aurait mieux fait de la laisser, voilà.
À quelqu'un d'autre, hein, troisième couteau.
On est bien d'accord.
Mais bon, au moins, c'est.
Mais c'est toujours intéressant d'aller voir l'embrouillé dans le sac, arrête, ouais. Ma merde va tirer donc. Bon, ça n'a pas aidé la cote de Stallone qui traverse, lui, une première période de vache maigre, pendant que nous, on rigole.
Ouais, et après justement de longues années passées à essayer de convaincre les producteurs, Stallone revient sur le devant de la scène en 2006 avec le sixième volet de Rocky.
Oui, tant que ça gagne.
Et le projet semble fou car pour beaucoup, Stallone est trop vieux pour incarner le rôle du boxeur et l'acteur n'échappe pas justement aux railleries. Ouais. Néanmoins, il s'accroche à son projet. Comprenant que le personnage lui colle à la peau et que le public apprécie de le voir dans ce rôle. Rocky Balboa, axé sur la nostalgie et le retour aux valeurs du tout premier épisode, permet finalement à Stallone de renouer avec le succès critique et les premières places du box-office.
Ouais.
C'est vrai que Stallone, quand on demande, c'est Rocky, c'est Rambo.
Oui. Voilà,
c'est désolé, on oublie les autres films, il a une très belle carrière, mais c'est Rocky, c'est Rambo.
Et après le retour bien accueilli de Rocky, Stallone tente la résurrection de l'autre rôle de sa vie.
John Rambo.
Rambo, voilà. Et il s'agit là du quatrième film de cette saga et il le baptise à l'image de son dernier Rocky, simplement par le nom du personnage, John Rambo. Voilà. Et il continue à s'offrir des succès comme réalisateur-producteur avec le projet...
Expandables,
unité spéciale. Il n'y en a plus, je vous le rajoute. Guess who just got back today? Them wild eyed boys that had been away. Haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are great. They were asking if you were around. You was where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. 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 Blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. Titre magnifique de Thin Lizzy, The Boys Are Back In Town, en illustration du film The Expendables. Le 1.
Ouais.
Bon, il paraît qu'il y a un synopsis et qu'il y a une histoire. Allez. Je vous la laisse, c'est pour moi. Ouais. Il raconte l'histoire donc d'une bande de mercenaires envoyés dans une île d'Amérique du Sud pour y déloger un dictateur. Bah, plus c'est gros, mieux ça passe. Incarné par David Zayas. Alors le gars, allez le voir, il a la tronche, c'est marqué dessus. Il, y a plus que... il manque le panneau.
Il manque le panneau.
Ouais. Le tournage de ce film d'action, sans déconner, réunissant toutes les stars du cinéma d'action hollywoodien, démarre au mois d'avril 2009 au Brésil. Les mecs se font plaisir, tant qu'à faire. Stallone y tient le rôle principal, tant qu'à faire. Et avec ses côtés, allons-y.
Jason Statham.
Jet Li.
Charisma Carpenter.
Terry Crews.
Dolph Lundgren.
Ouais, et sa maîtrise. Ouais. Qui fait son retour avec Stallone après avoir été remarqué dans...
Non, Rocky 4.
Randy Couture, champion du monde champion du monde de MMA.
Stone Cold Steve Austin.
Oui. Alors, pas celui de...
Pas l'homme qui vaut 3 milliards.
Non, non, il vaut moins cher, lui.
Ouais, ouais.
Non, c'est pas le budget. Eric Robert, Mickey Rourke.
Ouais, et une courte apparition d'un certain Arnold.
Schwarzenegger et de Bruce Willis, parce que ça fait plaisir.
Et on va dire, justement, tous ceux qu'on a vus dans les années 80-90... dans des rôles d'action, de policiers, de mercenaires, de guerriers.
Non, pas tous. Non, on en garde pour la suite.
Oui, mais oui. Tu vas pas divulguer le truc.
Ah bah, on les connaît tous. Ouais. Mais sinon, on écoute une musique, là, je crois, non?
Oui, et c'est un certain Brian.
Ouais.
Celui qui est dans la cuisine.
Non.
C'est...
Sans déconner.
Brian
Celui
Tyler.
Celui qui a une umbrella dans... Non. C'est... J'allais dire, c'est pas le petit jeune qui monte, mais c'est le gars qui a encore des trucs à prouver et qui en a encore sous le pied, je pense.
Et qui se débrouille déjà très bien.
Ah oui, qui cherchait très longtemps et qui signe musicalement les trois premiers films. Bah, c'est un compositeur américain de musique de films et de jeux vidéo. On sent déjà qu'on a affaire à la nouvelle génération.
Ouais, il s'est mixé plusieurs influences.
Ouais, et puis le gars étudie à Harvard. Sa passion pour les films lui a été transmise par son grand-père. Quand tu mêles passion et formation, ça donne un truc assez sympa. Il a commencé très jeune à jouer de la musique, à jouer de plusieurs instruments et pour plusieurs groupes et orchestres jusqu'à ce qu'il se décide. En 97, ouais, le gars a l'embarras du choix. On est bien. À entreprendre une carrière de compositeur, de musique, de films. Et le mec est un vrai showman. Je vous engage à aller le voir. C'est quelque chose de magnifique aussi.
Ouais, jusqu'à aujourd'hui, il a déjà composé plus de 40 trames sonores, dont plus de 30 ont été commercialisées en CD et vendues un peu partout dans le monde. Donc, il a justement cette diffusion plus commerciale. Et, tiens Teddy, tu montes un tout petit peu le son pour bien qu'on voit la puissance.
Quelques films de l'ami Ryan, juste avant, pour ceux
qui sont sur Facebook, oui. Vous avez peut-être cru à une crise d'épilepsie de Teddy. Ne vous inquiétez pas, il essaye de former des couples, mais non.
Allez, cliquez plus tard, ça, mais on en reparle après.
Pour ceux qui ont Facebook, ils comprennent. Désolé, d'accord. ceux qui n'ont que le son, mais ouais. Teddy a un petit peu craqué sur les boutons.
Allez, quelques films dont le cher Brian Tyler et non Bonnie Tyler. Ouais. A fait. On a Fast and Furious en 2006-2007, on a Alien vs Predator, John Rambo, Bangkok Dangerous, c'est pas le meilleur film, mais bon. La musique des potes, il faut avouer, L'œil du mal, The Lazarus Project,
Dragon Ball Evolution, oui, Fast and Furious 4, Destination Finale 4, plein de films, pas forcément exceptionnels, mais qui font partie d'une, série déjà existante.
On a l'impression que le mec va voir, je voudrais un film d'action, j'ai envie de faire de la musique qui dépote, s'il vous plaît, monsieur. C'est un peu l'inverse. C'est assez rigolo de constater que, ouais, le gars, et le gars, on en... Voilà. Alors ça, c'est la suite, c'est un autre Expandable, c'est les Expandables 3, c'est Congo.
Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Whoa! My head, I open my mouth and it's something I've read. I stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought is something I felt. Confused what I feel is something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a
c'est putain de badass, cette musique, ça fait vraiment, on va dire, on dirait presque des cow-boys, mais justement, on les voit tous arriver comme sur l'affiche, ils sont en train d'arriver, ça fait très country dans l'ambiance musicale, donc on les imagine presque sur des chevaux, mais non, c'est la grosse artillerie qui arrive.
Oui, il faut voir les films, mais là, oui, on est tout à fait là-dedans. Donc là, c'était Congo's Come With Me Now, c'était les Expandables 3, ça fait partie 2.
Ouais.
Et en 2012, donc... On est un peu en avance musicalement, il reprend son rôle dans les Expandables 2 Unité Spéciale. Mais la réalisation est confiée à...
Simon West.
Yes. Et le film est tourné en grande partie en Bulgarie et il accueille de nouveaux acteurs tels que...
Chuck Norris.
Ouais. Simon Atkins et surtout Jean-Claude Van Damme.
JCVD.
Ouais, qui incarne un antagonisme principal, mais alors le vrai méchant.
Ouais.
Ah, mais le méchant caricatural, mais le méchant, le mauvais, le... Ben, voilà.
Et à l'époque, Schwarzy et Bruce Willis prennent un peu plus d'importance dans l'équipe.
Ils ont un duo un peu potache qui est assez marrant et où justement, on se fout de la gueule de toute sa filmographie. Chacun se fout de lui-même. C'est un grand bonheur, ce film.
Oui, il y a une scène toute bête.
Oui, c'est je reviendrai.
Non, t'es assez revenu, c'est à mon tour.
Voilà, c'est ça. Et le troisième volet, Expandable 3, est comme... avec... quelques acteurs, des petits nouveaux aussi.
Ouais.
Ouais. Le Major Drummer joué par...
Harrison Ford.
Voilà, Antonio Banderas. Ah. Alors lui, magnifique, un vrai bonheur. Wesley Snipes.
Un certain Mel Gibson.
Ouais.
Mais ce coup-ci...
Sans Bruce Willis, bah oui, là, il était plus en forme, le garçon.
Non, ça... c'était pas encore trop la période où il commençait à tomber, mais il n'est pas forcément disponible à ce moment-là.
Voilà. Et ça conclut la trilogie en août 2014.
Ah. On la laisse celle-là.
Ah oui. We'll be right back.
Ce thème, vous le connaissez, siffler, c'est...
Bah oui, c'est le pont de la rivière Kouai, ouais. Revu et corrigé, justement.
Mais ça colle très bien aux Expendables. C'est un reste putain de badass à ce niveau-là, au niveau de la musique. Ça colle génial.
Ah oui, c'est un vrai bonheur.
Et là, on va changer un petit peu de style.
Alors, on va dire que parallèlement, revient... parce que le père Stallone, il a... plusieurs projets, ouais. On l'a compris. Et il tient les premiers rôles de différents de ces projets situés dans un registre musclé aux fortunes des plus
diverses. En 2014, par exemple, il surprend en figurant au casting choral de la comédie dramatique indépendante Bad Luck, écrite et réalisée par John Hertzfeld.
Oui, faut bien faire des trucs, on s'occupe.
En même temps, justement, il commence un peu à vieillir aussi, il sait qu'il va falloir quitter les personnages mythiques, mais il pilote
toujours et ensuite le projet... Creed, un dérivé de Rocky, centré sur le fils d'Apollo Creed, incarné par le jeune Michael B. Jordan. Écrit et réalisé par Ryan Coogler, le film permet à Stallone de jouer un Rocky Balboa retraité,
ouais.
Désormais dans le rôle de mentor. Ça lui va comme un gant.
Ouais.
Sa performance lui vaut un Golden Globes du meilleur acteur dans le second rôle et une nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle aussi. Il avait déjà été nommé pour le meilleur rôle en 77 aux Golden Globes et aux Oscars.
Donc il ne quitte pas son personnage de Rocky Balboa.
Mais dis-moi, Yves, il
passe la main.
Oui, en termes de musique, Yves, dites-moi, Creed et tout ça.
C'est un certain Ludwig Göransson.
Ouais, c'était pour toi, ça.
Ouais, c'est un d'origine suédoise, je pense, son nom. Je ne suis pas allé vérifier totalement. Et donc...
si, c'est un Suédois.
Je découvre en même temps.
Il est né à... C'est pour Yves, ça.
Linköping.
À tes souhaits.
Et il a déjà une belle petite carrière derrière lui, malgré son jeune âge de 41 ans en 2025.
Ouais, et en 2019, il a composé la bande originale de la série The Mandalorian et également celle de Christopher Nolan, Tenet,
ouais.
En 2020.
Donc il a déjà quand même une belle approche de compositeur, parce que également Black Panther, Venom,
oui.
Creed 2 également.
Bah oui.
Alerte Rouge... Oppenheimer.
Oui,
c'est pas rien.
C'est pas rien. C'est pas rien. Donc je pense qu'il en a encore sous le pied à surveiller aussi, lui.
Ouais.
Oui, clairement.
Donc, l'album de la bande originale commercialisée par Atlantic Records comprend des chansons de divers artistes de rap comme The Roots, Nas, Joey Badass ou encore Tupac Shakur.
Vous êtes toujours dans Soundtrack, mais c'est l'instant galette complète, messieurs,
ouais,
dames.
Et justement, on sent aussi Stallone. Quand c'était Rocky, c'était plus rock'n'roll. Ça correspondait, on va dire, à l'ambiance des années 80. Là, on est dans les années 2020, 40 ans plus tard. C'est le rap, c'est un boxeur qui est d'actualité, qui est jeune et qui écoute la musique des jeunes, le rap, le hip-hop. Enfin, Stallone est une dernière fois Rocky Balboa pour Creed 2 et pour ses adieux au rôle qu'il a rendu célèbre, tenu durant 8 longs métrages, Stallone retrouve Ivan Drago, interprété par Dolph Lundgren dans Rocky IV, qui, à l'instar de Rocky, a raccroché les gants pour devenir entraîneur. D'abord annoncé comme réalisateur, Stallone cède finalement sa place au jeune cinéaste, Stephen Caple Jr.
Ouais, c'était peut-être un peu mieux, je pense. Mm. Et en 2019, il s'est fait ses adieux au grand écran à un autre personnage récurrent, John Rambo, dans Rambo Last Blood. Mm. Le film réalisé par Adrian Grunberg a été coécrit et scénarisé par Sylvester Stallone. Il reçoit essentiellement des critiques négatives. C'est le lynchage, en gros. Hein. La presse déplorant des incohérences du personnage par rapport au précédent volet. Et même l'auteur du roman Rambo, David Morrell, se désolidarise complètement du film et le décrit comme un gâchis. Là, ça pique. Ça pique.
Ouais, ouais.
Le film, selon ce même David Morrell, est décrit comme typique des films ultra-violents des années 70 de type Grindhouse. Alors, Grindhouse, je vais vous le dire, ça désigne en anglais américain une salle de cinéma spécialisée dans des films d'exploitation. Et qu'est-ce qu'un film d'exploitation, mon cher Yves ? C'est un film fait avec peu ou pas de moyens, ouais. Peu d'attention sur la qualité et sur le mérite artistique, mais dans la perspective de faire un bénéfice rapide. Habituellement par l'intermédiaire des techniques de vente sous pression et de promotion qui insistent sur l'aspect sensationnel du produit. En gros, on vous colle Bruce Willis, il est là pendant 10 minutes, il prend son cachet, il meurt 3 minutes après où il prend une promotion et vous tapez le reste du film à vous demander ce que vous faites là.
Et là, c'est un peu ça. Et là, c'est Stallone, c'est Rambo, donc automatiquement, les gens se sont dit
ah bah là...
c'est Rambo, c'est Stallone. Ça va péter des gueules, ça va être génial, et au final, ça pète des gueules, mais c'est pas génial.
Non, il y a trop de ketchup, c'est trop incohérent, c'est pas... Non, ça le fait plus. Il était temps d'arrêter, oui.
Ouais.
C'est la suite de trop.
Et bon, je regarde un peu l'heure, on a beaucoup parlé de Stallone.
Oui.
On pourrait encore en faire beaucoup, mais
oui.
On va... Ah, on avait envie quand même, pour cette spéciale série de films...
Oui.
Parler un peu d'autre chose.
Ouais, on va faire un grand écart. On va plier la carte un grand coup.
Ouais.
Voilà.
On va passer à la France parce que... allez, un petit Francis Lay en musique de fond. Ouais, oui. Je sais, on vous en a déjà parlé dans une...
Ouais, mais on aime bien.
Dans un épisode précédent, mais voilà. On va se remettre un peu...
Mais revenons en France.
Et on va revenir en France avec un certain Thierry Lhermitte et un certain...
Comment s'appelle-t-il déjà ?
J'ai un blanc.
C'est Philippe Noiret. Non, on confond, c'est toujours l'un ou l'autre. Ouais, on se trompe toujours.
C'est René,
c'est les Ripoux.
Ouais.
Oui, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. Allez, Claude Zidi nous présente la catégorie des...
Ripoux.
C'est bon, ça on l'a retrouvé. Eh ben dis donc, Francis Lay donc, a su un magnifique morceau appelé Les Retrouvailles.
Toi, je sais que t'es fan des Ripoux.
Ah bah je vais vous faire les trois synopsis, accrochez-vous, c'est parti. Les Ripoux en 84, le 1. René est inspecteur de police dans le 18e arrondissement de Paris depuis des années. Il tient son quartier à coups de combine. François, lui, jeune inspecteur fraîchement diplômé et droit comme la justice, est le nouveau partenaire de René. Voilà. Ripoux contre Ripoux, le 2, 90. François et René forment une équipe de Ripoux depuis... Pas déjà 5 ans.
Voilà.
François, lui, par contre, il a de l'ambition. Il envisage de passer l'examen de commissaire et souhaite redevenir honnête.
Voilà.
C'est sans compter sur René. Mais lorsqu'il remet à une boutiquière volée l'argent dérobé, celle-ci, en raison d'une vieille rancune avec René, toujours le même, hein, les accuse aussitôt. Les deux sont dégagés et à la place, on met
les inspecteurs Brisson et Portal, censés être de véritables modèles d'intégrité.
le père Castaldi et Nestor Burma, donc Guy Marchand.
Et les apparences, elles sont...
Trompeuses, parce que Laurel et Hardy, ils sont encore pires que les deux premiers.
C'est ça.
Donc...
Arrive le troisième.
François Lesbuche est devenu commissaire à l'IGP. Bah parce que, bon, ils ont réussi à dégager les deux Ripoux pires qu'eux.
Ouais.
Et ils ont été nommés à l'IGS, si ça c'est pas de l'ironie. Mais bon, René, lui, par contre, il est toujours avec son tac-tac, son dada, son PMU, ses combines, il est plus flic et il s'est encore foutu dans la mouise.
Oh.
Et voilà, Monsieur Lesbuche va redevenir un ripou. Bon, on verra Laurent Deutsch, mais c'est pas la peine. On va essayer de nous l'introduire, mais ça passe pas. Mais on est content de les recroiser une deuxième fois. C'est le Titi parisien, c'est les embrouilles. Mais une dernière fois, merci, Maître Capello. Merci, cher ami.
On se la fait vraiment courte sur les ripoux, on en avait déjà parlé, on reviendra sûrement sur Francis Lay pour d'autres occasions.
Et bah, nous de toute façon, on a fait le CNR. Hein.
On avait plein d'autres franchises en tête, comme on a parlé de Karate Kid tout à l'heure, oui. On aurait pu faire Harry Potter, oui. Seigneur des Anneaux,
ah, oui.
Le Hobbit, Terminator, Alien, Prometheus, même les Fantomas, Gendarmes à Saint-Tropez, 7ème Compagnie, voire les Charlots.
Calmez-vous Yves.
Oh,
on va revenir au club d'eau. Hein.
Ouais.
Voilà, on va revenir au biberon un petit peu. Et on va se rappeler d'un truc, ça c'est Nicky Larson.
Ouais.
Et Nicky Larson, c'est tiré du personnage City Hunter et nous sommes dans la série animée et les films d'animation issus du manga. On diversifie donc un petit peu le propos à propos justement de la prochaine émission.
Et d'une autre saison peut-être également.
Voilà. Alors Nicky Larson, justement, animé, manga, japonais. Le studio d'animation Sunrise qui a fait aussi les 4 Size en France, distribué et diffusé en 90 dans l'émission donc du Club Dorothée.
Ouais.
Série culte, en particulier pour la version française dont les scènes et les dialogues ont été modifiés pour s'adapter aux plus jeunes téléspectateurs. On mastiquera Ségolène pour ça. Ouais,
parce que c'était un peu plus osé voilà. Au Japon.
Ah, bah oui, carrément.
C'est la culture nippone qui là-bas. Et en même temps, au départ, c'est pas pour les enfants.
Non, pas du tout, parce qu'à Tokyo dans les années 80, Ryo Saiba, donc Nicky Larson en France, est un homme de l'ombre, un nettoyeur, filateur, tueur, en gros. Et il accepte n'importe quel travail du moment que le cœur du client fait vibrer le sien. Oui, en gros, il veut de la fesse.
Ouais, si
en
y
gros,
y a...
on va la faire claire.
Ah,
on
si a pas y a une jolie demoiselle en face, il accepte tout de suite
c'est
le
ça,
contrat.
Voilà. Donc,
il s'en fout du contrat, c'est la demoiselle.
Son partenaire et ancien ami, un ancien policier, est assassiné par un cartel. La sœur, donc,
Kaori.
Fait de nouveau, on va dire, elle tente de prendre la relève de son partenaire et dès lors, Ryo s'efforcera de ne plus tuer. Il a aussi un lourd passé qui n'est que vaguement évoqué mais qui va ressurgir dans certains OAV et compagnie. Et c'est assez plaisant. Et il semble jouer à un jeu quand il drague les jolies filles. Par la suite, on apprend que Kaori et Ryo... Bon, ça voudrait bien... Ça n'y va pas. Car justement, lui le dit dans un épisode, une femme peut tomber amoureuse d'une personne pour le reste de sa vie. Moi, je ne peux l'être que de temps en temps. Métier oblige.
Bah oui, voilà. Il n'a pas le métier
donc,
le plus facile non plus.
L'histoire tourne principalement autour de la relation Ryo-Kaori et des missions qu'accomplit Ryo. De nombreux EAV, mais on vous en parlera certainement à la prochaine, mon cher.
Oui, parce que toi, comme tu es fan justement de Nicky Larson, oui, City Hunter, là, c'était justement juste pour... titiller, on va dire, les auditeurs pour les prochaines émissions. On y reviendra.
On dit merci à nos amis facebookiens.
Merci Teddy. On n'a pas pris connaissance tout à fait des messages. On remercie ceux qui nous ont fait coucou, justement.
Oui.
On se retrouve, c'est le 13 juin 2025, dernière de la saison 2024-2025.
Ouais.
On n'a pas encore totalement décidé quel était le thème, mais c'est, on va dire, là ce que City Hunter aborde. On va peut-être continuer sur les films d'animation, comme aussi bien les films issus de séries. On va voir.
Voilà, c'est ça actuellement qu'on est en train
d'écouter.
Et justement, on pourrait parler aussi, si l'on fait ça, de TM Network.
Ouais.
Voilà. Et maintenant, on va se l'écouter en entier et on entendait ça à la fin de chaque épisode de Nicky Larson. Salut les gens.
Salut tout le monde.
Merci.
Salut Jay. Salut Teddy.
Salut à tous. Au mois prochain.
ながら暗闇走り抜ける自分 小さに甘えて